Bonjour à tous. Et merci d'écouter France Culture, il est tout juste midi, effectivement, et dans quelques instants, ce sera la première partie de la Grande Table. Il faut que je parle plus lentement. Bonjour Antoine, merci.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Quelques titres du journal de 12h30, Antoine.
D'abord l'Assemblée nationale, puisque Manuel Valls défend la révision de la Constitution. Depuis ce matin, il promet que le principe d'égalité de tous les Français serait bien respecté. Il propose de limiter à 4 mois renouvelables la prorogation de l'état d'urgence. C'est un débat suivi pour nous par Stéphane Robert. Pendant ce temps, le Front National est réuni dans l'Essonne pour un séminaire de 3 jours destiné à définir une stratégie pour officiellement tenter de dépasser la barre des 50% au second tour d'une élection, et notamment l'élection présidentielle de l'an prochain. Analyse de cette stratégie tout à l'heure avec Christine Moncla. À l'étranger, des milliers de migrants, de Syriens fuient l'offensive actuellement en cours du régime de Damas, appuyée par l'aviation russe sur la ville d'Alep. Ils sont actuellement massés près de la frontière turque, on retrouvera Alexandre Billette. Et puis un comité de l'ONU qui appelle à mettre fin à la détention qualifiée d'arbitraire du fondateur de Wikileaks, Julian Assange, confiné, on le sait, depuis maintenant plus de 3 ans dans l'ambassade d'Équateur à Londres. On reviendra aussi sur la réforme de l'orthographe, appliquée désormais dans tous les manuels et qui suscite de l'émotion. Des syndicats, des enseignants, des écrivains, des internautes s'alarment de l'application de cette réforme, en particulier de la disparition parfois de l'accent circonflexe. L'invité de la séquence interview, le philosophe Michael Fessel, pour son livre État de vigilance critique de la banalité sécuritaire aux éditions du Bord de l'eau. Voilà pour les titres. C'est à vous, Caroline, pour la Grande Table.
Merci beaucoup, Antoine Mercier. Au programme de la Grande Table, eh bien, après le journal d'Antoine Mercier, nous recevrons l'inventeur du deep learning, l'apprentissage profond. C'est en fait le français qui apprend l'intelligence artificielle à Facebook, très attendu, puisqu'il vient d'être nommé pour un an à la chaire d'informatique et de sciences numériques du Collège de France. Il a fait sa leçon inaugurale pas plus tard qu'hier soir. Il sera notre invité dans la dernière partie. C'est Yann Lequin, très attendu aussi dans la première partie, le Grand Prix du Festival d'Angoulême, mais une rencontre particulière, une rencontre Est-Ouest, une rencontre féminin-masculin entre ce Grand Prix du Festival d'Angoulême, vieux cow-boy de la bande dessinée, auteur de plus d'une centaine, 125 albums.
Les Jeux Ennis.
Non, pas encore. Et la nouvelle Calamity Jane de la Bonjour. Bande dessinée qui a su très vite
plus
se faire
que Calamity Jane,
une place. Et oui, mais on n'a pas encore l'image, on prendra une photo, bien entendu. Bonjour Herman.
Bonjour.
Et bonjour Julie Birman.
Bonjour.
Même si vous avez vendu des millions d'albums, vous êtes le créateur de séries mythiques.
Oui, d'accord,
Bernard Prince,
Comanche, j'en ai pas mal. D'accord.
Quand même pas mal. Oui. Les Tours de Bois-Maurie, Jérémia, le dernier d'ailleurs, tome est sorti en octobre dernier. Et votre dernier album, on ne dit pas solo parce que c'est avec votre fils Yves H. depuis un bon moment.
Quelques années.
Hein, c'est depuis
vrai.
Quelques années. Vingtaine d'années quand même, vous faites des albums one-shot, on dit, je crois.
Je ne calcule pas, hein, mais enfin, ça fait un sacré bout de temps, oui.
Ça fait quelques années, donc vous travaillez avec lui.
Peut-être pas 20 ans, mais certainement entre les deux, entre 15 et 20. Oui.
Voilà, alors vous êtes dessinateur, vous avez été scénariste, avec lui vous
mais
êtes dessinateur.
Toujours...
Vous êtes les deux, voilà,
oui,
vous êtes les deux oui. Dans la bande dessinée. Donc ce dernier album vient de paraître aux éditions du Lombard, Old Pa Anderson, c'est son titre, signé donc avec Yves H. Julie Birman, auteur scénariste de bande dessinée, vous êtes l'auteur avec le dessinateur Clément Oubrerie de 4 tomes de Pablo, vous aussi, vous vous lancez dans les séries, peut-être un peu moins de numéros que pour les séries de Herman. Vous avez commencé un diptyque sur Isadora Duncan, dont le premier tome est sorti à l'automne dernier chez Dargo. Il était une fois dans l'Est. On va venir bien entendu à cette rencontre Eastern-Western que j'annonçais au début. Mais juste un mot sur cette édition du Festival d'Angoulême qui a peut-être fait parler un peu plus que d'habitude. D'abord parce que vous avez eu le Grand Prix, Herman, que vous ne l'attendiez plus. Vous disiez même il y a deux ans que vous ne le vouliez plus, si jamais on vous le donnait. Vous l'avez accepté quand même.
Et je voudrais signaler, ce n'est pas du tout de la frustration. J'étais indigné par le comportement du jury du passé. Il y avait tellement de copinage, de renvoi d'ascenseur, que là j'ai trouvé ça insupportable. Et je l'ai dit à un certain monsieur qui s'appelait André Buillet, qui travaillait pour les éditions du Lombard à Paris. Et je sais que ce jour-là, on avait fait un coup tellement vache à Bernard Isler à propos de son bouquin qui s'appelait Sambre, que j'ai tellement été écœuré, il a été victime d'une cabale, que j'ai dit à partir de ce jour-là, le prix d'Angoulême ne m'intéresse plus.
Bon, il vous donc, a là quand même un peu intéressé, années, hein. Herman.
Pardon ?
Mais en plus, votre...
Ah mais non, minute, c'est pas le prix. C'est
minute
le... Oui, je vous interromps, parce que c'est surtout le comportement, le plébiscite dû à beaucoup de dessinateurs. Là, je pouvais quand même pas montrer mon nez et mes bonnes manières, ça c'est pas possible. C'est que ma femme ou mon fils m'ont dit, écoute, et notamment un dessinateur pour lequel j'ai une vénération, c'est François Beau qui dit, tu peux pas tourner le dos à ces gens-là. Et c'est pour ça que je les remercie profondément. C'est tout, je n'ai plus rien d'autre à dire.
J'espère bien que si, puisque nous avons une demi-heure ensemble. Mais je voudrais vous poser une question, Herman, sur l'évolution, non pas seulement du festival, là, vous venez d'en dire quelques mots, mais sur l'évolution de cet univers de la bande dessinée, au-delà de la reconnaissance qui est la vôtre, que vous jugez à juste titre tardive. Il y avait votre ami Jean-Claude Mézières qui vous disait, tu es un peu passé de mode, comme quoi ça le contrôle. C'est votre ami, donc on peut se permettre de le dire. Mais juste sur la reconnaissance quand même de la bande dessinée comme art. Ça, vous avez commencé dans un moment où la bande dessinée n'était pas reconnue comme le 9e art. Là, ça fait des progrès de ce point de vue-là.
On appelait ça petit Mickey, les gens, notamment dans le milieu, je dirais, enseignants, c'était un peu méprisé. Il y a encore beaucoup moins en territoire francophone. Mais par exemple, en allemand, c'est les journaux qui passaient de la bande dessinée. On leur supprimait le support de l'État, hein. En Allemagne, par exemple. C'est un truc qui venait d'Amérique, c'était hyper mauvais. Non, franchement, mais avec le temps, c'est quand même... Enfin, je n'en suis pas responsable. La chose s'est imposée, parce qu'aussi, la bande dessinée a évolué. Elle a traité de sujets de manière beaucoup moins simplement distrayante. Elle a abordé des sujets sans pour ça devenir sinistre. Hein. Franchement, pas exagéré non plus. On est quand même là pour amuser un certain public, mais on peut très bien attaquer... pointer le doigt sur des choses qui sont dégueulasses et en même temps raconter une histoire. Un peu comme certains, même à certains cinémas américains, à une époque qui était quand même très critique vis-à-vis de l'Amérique, d'eux-mêmes, et malgré tout, qui faisaient des choses très intéressantes. Donc, j'ai un penchant pour ça parce que je suis quelqu'un qui est un peu, comme on dit, un peu désabusé. Donc, j'aime bien donner des coups de pied dans la fourmilière, ce qui fait que je n'ai pas toujours des amis. Mais je préfère faire des ennemis pareils qu'uniquement des amis, voilà.
En même temps qu'on parlait de ce prix, du Grand Prix d'Angoulême, c'est de cette édition, Julie Birman, une polémique est apparue, on en a entendu parler, polémique sur la place des femmes dans la bande dessinée. À mesure que la bande dessinée se ramifiait, qu'une multitude de branches à l'arbre bande dessinée apparaît depuis quelques années avec une symphonie de talents, et bien en même temps on se rend compte que les femmes n'ont pas la même place que les hommes, que la BD c'est une affaire d'hommes. Alors comment avez-vous vécu cette polémique déjà vous, Julie Birman, et puis comment vous placez-vous en tant que jeune femme dans cet univers qui a longtemps été un univers d'hommes?
En fait, l'analyse, elle est toute simple, c'est que l'institution est toujours en retard. Donc là, c'est encore une fois le cas, l'institution est en retard, elle est faite et elle est dirigée par des gens qui sont venus du passé et qui n'ont pas encore enregistré le fait que ça avait changé et qu'il y avait plein de femmes aujourd'hui pour qui la bande dessinée était un média totalement naturel. J'en fais partie, voilà, et il y a pas mal de femmes aussi avec moi. Et donc, comment est-ce que j'ai vu cette polémique avec une certaine distance, parce que moi, j'ai jamais eu aucun problème en tant que femme dans la bande dessinée. Simplement, c'est vrai que dans l'histoire de la bande dessinée, il n'y avait pas de femmes avant. Ça racontait des histoires où il n'y avait que des hommes. Les héros à la Tintin, ils sont sans femmes. Donc, en fait, les femmes n'avaient pas de place.
Castafiore, est-ce une femme?
À part la Castafiore, voilà, c'est un doute. Et donc, voilà, ensuite, la bande dessinée a changé et comme c'est un petit peu la même chose dans toute l'histoire de l'art, ça s'est féminisé. Et moi, étant donné que je vis de l'intérieur ce changement, j'ai pas en même temps la distance d'historien de l'art pour l'analyser. Ce qui est bien dans toute cette polémique, c'est qu'on a montré qu'il y avait des femmes qui étaient talentueuses et on arrêtait de dire « Ah bah oui, mais alors est-ce qu'elles sont moins bien que les hommes ?» et tout ça, de comparer. En fait, il y a des grands talents et il se trouve qu'il y en a qui sont des femmes. Voilà.
Herman.
Mais je suis d'accord avec ça. Je souhaite, par contre, il y a un défaut au départ, c'est que malheureusement, il n'y a pas assez de lectrices. Donc s'il y avait plus de lectrices en bande dessinée, il y aurait davantage de présence dans l'avant-scène.
Ça a changé.
Oui, mais ça a changé, mais il n'y en a quand même pas toujours. Il n'y en a pas encore assez.
Riyad Sattouf dit que la moitié de ses lectrices pour l'Arabe du futur, qui est un grand carton, sont des femmes. Alors je ne sais pas sur quoi il se base, mais c'est ce qu'il dit. Et je pense qu'il a raison.
C'est un cas, c'est-à-dire que ça n'est pas général.
Lors des dédicaces,
je vois très bien dans les fils ce que c'est. Il a en effet, sur 10 personnes, il y a peut-être une femme, éventuellement.
C'est peut-être toujours. Les sujets, c'est maintenant, peut-être les personnages aussi, Herman.
Maintenant, mon type d'en dessiner est peut-être pas assez féminin. Encore que, je précise aussi, je vais quand même essayer de me défendre, je n'ai jamais traité les femmes de mes histoires comme étant simplement destinées au repos du guerrier. Je leur ai toujours donné un caractère.
Comment ?
J'ai déjà été approché de jeunes femmes qui m'ont dit ce qu'on aime dans vos histoires, c'est que justement, nous ne sommes pas traités comme simplement un truc pour amuser les hommes. Quoi.
Voilà. Oui, parce qu'il y a la place des auteureux de bandes dessinées, des femmes qui créent de la bande dessinée, puis effectivement, il y a la question des personnages. Isadora Duncan, ou Duncan, on peut dire les deux, Isadora Duncan, c'est une femme, une danseuse, que vous avez placée en Russie dans la steppe, parce qu'elle est partie de San Francisco pour aller dans la steppe. Vous allez nous raconter cette vie. Mais voilà, vous faites de cette femme une héroïne de bande dessinée. Ça ne s'était jamais fait jusque-là, si ?
Alors, pour moi, Isadora Duncan, c'est une Ulysse au féminin. Elle cherche son Ithaque, alors... Quel est son Ithaque ? C'est un des sujets de ce livre, mais c'est vrai que pour moi, et je ne sais plus qui disait ça, je pense que c'est Laure Adler, j'avais entendu ça sur votre antenne, qui a dit en fait, il faudrait réécrire toute l'histoire du point de vue des femmes. L'histoire du monde a été écrite du point de vue des hommes. Et voilà, il y a un énorme travail à faire, aussi bien par des femmes que par des hommes, mais de réécrire toute l'histoire du point de vue des femmes.
Tout à fait.
Et donc, c'est ce que j'avais essayé dans l'histoire de Pablo, qui raconte la jeunesse de Picasso du point de vue d'une femme, de sa compagne qui avait été totalement oubliée. Et ça avait été éclairant pour moi, parce que je me suis rendu compte que tous les hommes se haussaient comme ça pour être sur la photo et que les femmes n'avaient pas l'habitude de prendre la parole et étaient totalement en retrait. Pour Isadora Duncan, c'est autre chose, c'est une vraie héroïne. Elle naît en même temps que Picasso, mais elle a une force délirante qui va faire que, peu importe qu'elle soit femme, elle va être Ulysse qui va traverser le monde, l'époque, faire des rencontres délirantes et révolutionner la danse en plus.
Et je disais donc rencontre western-eastern parce que votre univers, à vous, Herman, a longtemps été... Le reste, mais sur les 125 albums, a longtemps été un univers de western, avec du western que vous appelez réaliste la plupart du temps. Vous allez nous définir ce que c'est. Et que dans cette « Il était une fois dans l'Est », à commencer par le titre et par la couverture de cet album, Julie Birman, on est chez Sergio Leone.
Oui, indéniablement.
Indéniablement.
C'est un clin d'œil,
Et pas seulement la couverture et le titre. Des pages à l'intérieur, on est vraiment dans les cadrages, les paysages, certaines planches de duels. De duels autour de la danse, de duels autour de la poésie également. Pourquoi ce choix du genre western ?
Alors, c'est vrai que Isadora Duncan, comme des pionniers de l'Ouest, repousse les frontières. Elle est allée tout le temps à l'aventure. Et il se trouve que, contrairement à ses ancêtres, qui étaient des vrais pionniers, qui sont allés d'Est en Ouest des États-Unis, elle fait le trajet inverse. Naît à San Francisco et son rêve absolu, elle croit que c'est d'aller en Grèce. Et ensuite, son rêve va un petit peu se transformer et ça va être d'aller dans la patrie de la révolution réalisée. Et elle s'imagine, c'est son Hollywood à elle, que en fait c'est le pays d'Éden. Et donc voilà, c'est l'Est absolu, Moscou. Donc c'est vraiment un western à l'envers.
Western à l'envers et en même temps avec les codes du western. Est-ce que, je vais me tourner vers le spécialiste, Herman.
Oui.
Bon, Vous avez sorti en janvier 2015 « Sans pardon » pour les 20 ans de la collection signée du Lombard. C'était le seul western depuis la fin de votre collaboration avec Greg sur la série Comanche, à part un auquel vous tenez beaucoup, qui est « On a tué Wild Bill ». D'où vous vient, vous, cette appétence pour le western? Est-ce que c'est un amour pour la nature? Est-ce que c'est un code ou un genre fabuleux à dessiner et à scénariser?
C'est comme j'aime le Moyen-Âge. Enfin, le western, c'est un peu le Moyen-Âge des États-Unis. C'est un côté de rêve. C'est les Indiens, les cowboys, tout ça. Je crois que c'est lié à ça. C'est, quel est le gosse qui n'a pas rêvé de cowboys, d'Indiens? C'est logique, même en tant qu'adulte, qu'on ait parfois envie d'open. Et évidemment, ce n'est plus traité comme à l'époque où ce genre de cinéma traitait l'avancée vers l'Ouest. Mais c'est quand même ça. Puis c'est passionnant. Il y a quelque chose dans ce monde américain qui n'est pas le nôtre et qui continue quand même à fasciner et qui peut être critiqué. Mais enfin, c'est un monde qui accroche, et d'autant plus que, donc sans pardon, c'est quand même mon fils qui a également co-coté le scénario. Il y a un côté... Tarantino sans l'humour, hein, c'est une espèce de violence, hein, pas aussi grande que celle du dernier film qui est sorti de lui, mais je n'interviens pas du tout dans certaines de mes histoires, tout cela, je n'ai fait qu'obéir, et c'est vrai que c'est un massacre, je dirais systématique. Enfin voilà, donc le western restera quand même toujours quelque chose de fascinant.
Restons un instant, Julie Birman, sur ces codes, pour les scénarios, pour le dessin. Comment avez-vous travaillé avec les Membreries pour faire un western sur de la danse et de la poésie? Puisqu'il est aussi question, il faut quand même le dire, des sénines, le compagnon, l'amour, le passionnel de Isadora Duncan en Russie.
Alors c'est vrai que le film de Sergio Leone était vraiment une référence, parce que rien que d'entendre cette musique, on voit les manteaux qui sont dans le vent et dans le désert. Et c'est vrai que c'est un petit peu comme ça qu'on peut aussi voir des poètes russes. Simplement, au lieu que ça soit dans les déserts américains, ça peut être dans la steppe. Et la violence en fait du western, elle était terriblement présente dans la Russie de Lénine des années 20. Donc c'est vrai que ça a été une grande référence pour nous, et aussi Claudia Cardinale, qui dans le film de Sergio Leone est là toujours en train de montrer ses seins échancrés dans une petite et servir la soupe. Et moi, j'avais aussi envie de montrer une Claudia Cardinale, alias Isadora Duncan, qui pouvait faire autre chose que servir la soupe. Donc ça, c'était aussi des jeux dans le western à l'envers. Ensuite, comment est-ce qu'on a travaillé? J'ai essayé de compulser le plus de documents possibles sur ce personnage. Et ensuite, on a essayé de comprendre ce que ça voulait dire, révolutionner la danse. Voilà, parce qu'avant Isadora Duncan, il y avait soit le musical, soit la danse classique. Et arrive cette femme qui va faire qu'ensuite Pina Bausch a été possible. C'est-à-dire quelqu'un qui va mélanger la danse, le théâtre, pour un art physique total, une liberté du corps et une totale expression de soi. Et dans le début du XXe siècle, c'est totalement délirant d'imaginer ça. Et donc, il y a tout un travail de se replacer dans cette époque, d'imaginer les gens habillés dans des corsets complètement tenus, des corps qui sont complètement esclavagisés par le capitalisme, parce qu'en fait, Isadora Duncan, elle a une dimension politique un peu naïve, mais c'est vraiment le fait de libérer les corps du joug du travail à la chaîne. Et son frère, elle a un frère aussi complètement fou, qui lui va essayer de travailler sur le geste et comment est-ce qu'un travailleur peut être heureux? Alors, quel geste il doit faire pour que son corps soit heureux? Voilà.
Avec la danse, on s'éloigne de l'univers d'Hermann, mais on y revient par plein de biais de ce qu'a dit Julie Birmand. D'abord, l'inspiration d'un film comme celui de Sergio Leone. Parce que vous, Hermann, vous dites souvent que vous faites du cinéma dessiné plus que de la bande dessinée.
Tout à fait, oui.
Déjà, premier point. Oui. Donc sur ce cinéma dessiné, qu'est-ce que ça veut dire pour vous le cinéma dessiné par rapport à la bande dessinée? Est-ce que ça veut dire que justement vous avez des images de cinéma en tête?
D'abord, j'essaie pas d'intellectualiser, j'essaie pas non plus de partir dans le graphisme. J'aime le graphisme, mais pas pour moi. De toute façon, on ne peut pas tout faire, hein. On ne peut pas aborder tous les sujets, sinon c'est une espèce de mélange imbuvable. Donc je me contente de cette cible, donner l'impression que Roman Polanski a dit de mes travaux, quand je vois les dessins d'Hermann, je pense, je ne me souviens plus de la formule, il a dit c'est du cinéma. Écoutez, j'ai aucune raison de déborder, d'intellectualiser mon métier, je ne le veux pas. De façon profondément, j'ai pas dit que je suis un imbécile, mais je veux complètement, je ne suis pas ce qui s'appelle un intellectuel. Non, je m'intéresse à des choses, mais je n'essaie pas. J'essaie d'être charnel, j'obéis à mes tripes. Ce sera bien assez.
Julie Birmand.
Il y a aussi le mouvement, en fait. Ce qui est difficile dans la bande dessinée du point de vue, en fait, d'un lecteur, mais c'est de voir des dessinateurs qui mettent du mouvement. Oui. Et rien qu'à voir vos taureaux qui sortent du corral, ça, c'est le plus difficile.
Oui.
Et ça lie aussi à la danse. C'est-à-dire que les cow-boys, il y a un mouvement.
Oui.
Et donc, moi, j'ai fait une sorte... Enfin, c'est pas moi qui dessine, c'est Clément Oubrery. Mais l'enjeu, c'était vraiment de réussir à montrer un corps qui bouge.
Surtout s'il s'agit de traiter la danse. Si vous le montrez de manière très figée, il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, le mariage ne fonctionne pas. Hein.
Mais ce qui fait un grand dessinateur de bande dessinée, à mon sens, c'est ça. C'est ceux qui savent avoir de l'élan et faire passer d'une case à l'autre.
C'est exact. C'est-à-dire, oui, justement, c'est le côté cinéma aussi, mais en même temps, c'est vrai, même à l'intérieur de la case, il faut essayer d'établir une espèce, j'appelle un espace-temps. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on a vu la personne faire quelques secondes un geste. Et ça, c'est très important. Mais aussi, quand je dessine, je peux dessiner n'importe quoi, mais ça peut être figé. Si ça ne bouge pas, je suis pas content. Et je cherche, et ça tient à des éléments, mais vraiment minuscules. Hein. Et parfois, je n'y arrive pas. C'est pour ça que j'ai toujours peur lorsque je commence à dessiner. C'est vrai, pour moi, le mouvement est essentiel, parce que justement, je vous dis, je fais du cinéma dessiné, mais si j'arrive pas à faire bouger ça à l'intérieur d'une case, qu'elle ne bouge pas, j'arrive plus à ce que je veux. Je fais pas du cinéma, là. Je fais un truc qui est figé, point final.
Voilà, et c'est ça, pour moi, c'est en tant aussi qu'à l'intérieur de la bande dessinée, je vois ceux qui savent dessiner en mouvement et ceux qui restent figés. Et ceux qui restent figés peuvent raconter des histoires, mais il n'y a pas de vie en fait.
Vous pouvez raconter de manière figée également, mais ce n'est pas du tout...
Voilà.
Vous ne faites pas du cinéma, c'est une autre démarche. C'est sur les illustrations qui se succèdent. C'est-à-dire, ça m'intéresse chez les autres, mais pour moi, je ne suis pas satisfait avec ça. Mais ce n'est pas une critique des autres.
Il y a autre chose que Julie Birmand a dit tout à l'heure, c'est la dimension de l'art physique. Et vous avez utilisé, Hermann, le terme de charnel. Ça, c'est vraiment quelque chose qui caractérise vos bandes dessinées, oui, quelles qu'elles soient, même si le dessin a formidablement évolué quand on reprend les premiers Comanches et qu'on regarde Old Pa Anderson, le dernier. Alors le dessin, mais aussi les couleurs ont vraiment évolué, mais il reste la matière, la chair, les pieds dans la terre.
Mais voyez-vous, vous me dites ça, je peux le commenter, mais comme je le réalise, comme je mange moi-même ma popote, je me rends pas bien compte. Il y a des ingrédients, j'ai du mal parfois à me juger. Je vis tellement dans l'insatisfaction, c'est pas une pause, c'est pas non. Et c'est bien que je suis insatisfait, parce que ça me pousse à chercher à aller de l'avant, avec beaucoup de frustration, fatalement. Mais il y a parfois une petite avancée, et rien que pour ça, vous savez, ça vaut le coup.
Est-ce que vous diriez que Old Pa Anderson, c'est un peu le mélange entre Comanche, avec son côté western, c'est-à-dire la violence, le monde sauvage, l'Amérique sauvage, et de l'autre côté, Jérémia, puisque c'est aussi dans Jérémia, c'était une guerre raciale dans un monde post-apocalyptique.
Oui.
Là, on est clairement dans une guerre raciale, puisqu'on est au Mississippi dans les années 50, et il est question
Il y a des références, je dirais, un peu historiques, hein, tandis que le reste, c'est purement fictif. Hein. J'ai une recherche un peu tous azimuts, hein, et puis quand je réfléchis à ce que je faisais au début, j'étais déjà heureux d'arriver à exprimer le scénario de Greg, qui dans le fond n'avait pas tellement de préoccupations de type sociétal. C'est par la suite que quelque chose s'est enrichi. J'ai éprouvé le besoin à écouter le monde, à écouter les gens. Je me suis dit que simplement faire du cowboy ne me suffisait pas. Donc, somme toute, comment je vais pas rejeter la chose? Mais c'est une époque un peu romantique de mon existence. Je voulais pas y retourner. Je pourrais pas faire du cowboy actuellement, pas de cette manière-là. Il faudrait que j'approche les gens de manière différente, plus charnelle, mais enfin aussi plus psychologique, pas psychiatrique. Non, pas aller trop loin, parce que c'est trop... Bon, les vaches, étudier les vaches de manière psychiatrique, ça pose un problème. Bon, ben voilà, quand même quelque chose de plus vécu, de plus senti, avec des comportements de l'être plus intéressants. Mais vous savez, c'est une chose sans fin, ce roman dessiné, c'est pas un terrain tellement propice.
Mais hein. Vous dites que c'est très instinctif aussi, c'est la façon dont vous dessinez, dont vous sentez les choses à partir peut-être du texte votre fils. Vous êtes un viscéral.
Mais oui.
Là, tout à l'heure, Julie Biermann disait que pour se plonger dans l'époque des années 20, 10-20 de Isadora Duncan, vous étiez replacé dans cette époque parce qu'il fallait que ça sonne juste quand même dans le dessin, dans le rendu et dans le scénario. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ces mélanges entre partir de façon viscérale et en même temps, justement, que ça reste juste, c'est-à-dire que dans votre dessin et dans le résultat, dans Holt par Anderson, on est vraiment dans le Mississippi des années 50.
Il y a un premier stade, faut que ce soit juste. Après, le viscéral, c'est celui qui soulève les personnes, qui les fait grimper l'escalier, quoi, voilà. Mais sinon, au départ, évidemment, il y a la chose toute froide du schéma de l'histoire, de ce qui se passe. Mais à vous de lui donner du corps, de la chair. Et comme je suis un viscéral, si un dessin ne donne pas une impression, justement, de cela, je ne l'achève pas. C'est pas possible. Il faut que je continue à travailler dessus. Jamais je ne fais une planche dans laquelle je me dis non, je suis complètement à côté. Non. Il y a une case parfois qui est moins réussie, mais vous savez, parfois je ne recommence pas tout. Le lecteur a le droit de voir également là où je rate un peu mon coup, c'est normal.
Julie Biermann.
On dit parfois que vous êtes le chaînon manquant entre le sanglier des Ardennes et l'homme.
Oui,
et là, je le comprends un peu mieux.
Oui, mais c'est surtout Greg qui me disait ça de moi. C'est Greg qui s'amusait. Il était très corrosif. Je crois qu'il m'aimait bien, mais je crois que j'étais une bonne cible pour lui. Alors, comme je suis un peu... Disons que je ne suis pas toujours le roi de la diplomatie, alors voilà, il me traitait de sanglier des Ardennes.
Et parce que quand vous plongez dans les époques, vous n'essayez pas de trouver une issue à vos personnages. Il y a une sorte de grand désespoir. Et moi, que scénariste, en fait,
je ne sais pas, mais il en a
un profond désenchantement.
Désenchantement, il y a de ça, oui.
Et alors que j'essaye toujours, moi, de trouver un personnage qui va aller vers la lumière, même si sa vie est dramatique, désespérée.
On peut aller vers la lumière tout en étant désabusé. C'est fou, d'ailleurs. De toute façon, écoutez, je suis désabusé, mais je continue à vivre, je continue à rigoler, je continue à faire des choses, donc je ne m'effondre pas dans un coin.
Je ne dis pas en tant qu'homme, ce que racontent vos
univers
sombres,
c'est un univers dur. C'est vrai, même, écoutez, comme chez les scénarios avec mon fils, qui lui est aussi, finalement, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre, il est quand même un peu désabusé aussi. Est-ce que c'est moi qui suis responsable?
Peut-être travailler ensemble l'un et l'autre, vous allez vous compléter.
Oui.
You can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and women warm, I've been kicked around since I was born. And it's alright, and it's okay, you may look the other way. We can try to understand, a New York Times effect on man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, feel the city breaking when everybody's shaking, they're staying alive, ha! Staying alive, staying alive, ha! Staying alive. All right.
Il petite pépite, comme le dit réalisateur Philippe Baudouin, qui a trouvé cette version western de Staying Alive par les Hormonauts. Merci beaucoup à toi, Philippe Baudouin. Et merci à tous les deux, Herman et Julie Bierman, d'être venus ensemble au micro de La Grande Table. Je rappelle le titre de votre dernier album, Herman, Old Pa Anderson, univers sombre, univers dur, l'Amérique sauvage des années 50 dans le Mississippi, mais c'est tout simplement splendide. C'est au Lombard, bien entendu, avec votre fils Yves H. Julie Bierman, le premier tome de « Il était une fois dans l'Est, la vie » d'Isadora Duncan avec le dessinateur Clément Oubrery. C'est sorti à l'automne aux éditions d'Argo. Il y a une rétrospective de votre œuvre, Herman, à Versailles, je crois, en ce moment.
Elle a eu lieu, oui.
Je crois que c'est jusqu'au 22 février. On vérifiera, on mettra ça sur le site si ça a bien lieu. Et surtout, ne manquez pas Tintin, mise en fiction avec la Comédie Française et l'Orchestre National de France, et oui, sur France Culture, toute la semaine prochaine, à 20h30, premier épisode, premier feuilleton, Les cigares du Pharaon.